Europe 1.
T'as qu'à leur dire Django veut le même cachet que Clark Gable.
Tous les jours sur Europe 1.
Soyez maudits.
Historiquement vôtre.
The successor to the kings and queens of history.
Maudits jusqu'à la 13e génération de mon âme.
Il paraît que le roi, votre frère, n'est pas très bien membré.
Stéphane Bern.
Bonjour à toutes et à tous, Clémentine, Jean-Luc, David.
Bonjour.
Et celle qui est avec nous aujourd'hui, notre historienne des mœurs. Bonjour Virginie Giraud.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Je suis ravi de vous retrouver comme chaque après-midi sur Europe 1 pour vous raconter l'histoire sans se la raconter, en compagnie de trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, qui ne vivaient pas à la même époque, mais qui ont un point commun. Aujourd'hui...
La mort m'attend comme une vieille fille au rendez-vous.
Eh oui, cher Jacques Brel, la mort nous attend. Mais nos personnages du jour, eux, ne l'ont pas attendu. Ils ont mis en scène leur propre mort avant même qu'elle n'arrive. C'est le thème d'Historiquement Vôtre cet après-midi. À commencer par celle dont on commémore le centenaire de la mort, justement, à qui nous allons consacrer toute la première heure d'Historiquement Vôtre. La comédienne à la voix d'or, Sarah Bernard, la divine, qui a mis en scène sa mort comme sa vie, en passant du temps dans un cercueil. Eh oui. Puis je vous raconte un roi qui a mis en scène sa propre mort quand il a senti qu'elle n'allait hélas plus tarder à arriver, Louis XIV. Et après les morts, le vivant, c'est vous Jean-Luc Lemoine qui dresserez vers 17h30, hein, le portrait de notre troisième personnage du jour, un célèbre cinéaste qui a mis en scène sa propre mort lui aussi.
Oui, une mise en scène de cinéma forcément, pour un projet très court qu'il a intitulé sobrement « The Death of David Cronenberg ». La mort de David Cronenberg, pour ceux qui ne parlent pas très bien anglais. Je vous raconte un très vivant cinéaste qui a de la suite dans les idées. David Cronenberg, donc.
Eux aussi sont parfaitement vivants et rien que pour ça, bah, on est content. D'abord, celui qui remonte aux origines d'un objet, d'une mode, d'une passion, voire d'une obsession, souvent la sienne, c'est David Castello-Lopez.
Ouais.
Vous nous parlez
de la grève.
Oui.
Depuis les premiers gens qui ont fait de la grève.
Oui, les Égyptiens.
On va en parler. Et puis après, je fais une petite histoire rapide de la grève. Parce que
de la grève, bien sûr. Ouais, oui. Ouais. Et la place de grève aussi.
Exactement.
Ah bah oui, c'est intéressant.
Est-ce qu'il y aurait une démonstration? Est-ce qu'on va pouvoir partir de cette émission tout de suite?
Je pourrais faire ça, voici l'histoire de la grève, je la fais
vous
pas.
Mettre en voilà, grève, voilà, oui, très bien. Les origines, c'est dans toute fin d'émission et juste avant, comme dirait l'autre.
Mais aïe, quelle époque, mais aïe, quelle époque.
Eh oui, mais aïe, quelle époque. Ça s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, on remonte aux années 50. Aux États-Unis, on parle société avec vous, Virginie Giraud, et d'un fichier tenu par le chef du FBI, Edgar Hoover.
Et oui, Hoover, c'était pas quelqu'un de sympathique, il a persécuté les homosexuels, sauf qu'on va découvrir qu'il était lui-même. Probablement lui-même.
Mais aïeux, quelle époque, ce sera tout à l'heure vers 17h40, et je le disais, on met Sarah Bernard à l'honneur de notre émission cet après-midi. Elle aura même l'honneur d'une chronique de Clémentine Portier-Kaltenbach, c'est vous dire.
Mais oui, parce que l'une de nos invitées lui a consacré une biographie dans laquelle tout un chapitre est intitulé « J'étais née pour être sculpteur ». Et donc moi, je suis allée regarder cette facette un peu méconnue de Sarah Bernard. Son côté artiste, mais travaillant la glaise, peignant, dessinant. Elle était extrêmement douée, elle aurait pu ne faire que ça.
Plus on verra. Très bien. Alors, sans oublier un rendez-vous des plus théâtraux, le quiz Born to be Alive.
Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, encore plus que les autres, Stéphane entrera côté cour, Clémentine côté jardin. Et la pièce que nous jouerons sera celle d'un affrontement sur fond de connaissances historiques. Et ça sera théâtral, car le thème du quiz, vous l'avez compris, ça sera... Bah, Sarah Bernard.
Et les costumes seront de Donald Cardwell ?
Oui,
les décors de Roger Hart.
C'est ce qu'on m'a promis.
Eh bien, on a hâte d'entrer en scène alors. Mais pour l'heure, justement, restez bien avec nous. Je vous raconte notre premier personnage du jour.
Europe 1,
historiquement vôtre.
Le récit. Stéphane Bern.
Jean Cocteau a inventé pour elle l'expression « monstre sacré ». Tant les superlatifs manquaient pour désigner la comédienne la plus marquante de la Belle Époque, dont le souvenir est encore bien présent, 100 ans après sa disparition. Je vous raconte maintenant la divine Sarah Bernard qui a mis en scène sa mort aussi bien que sa vie. La comédienne est couchée dans un cercueil, confortablement capitonné de satin blanc, les yeux clos, les mains croisées sur la poitrine. Si jeune, elle est recouverte de gerbes de fleurs. La photo a fait le tour de Paris, puis du monde entier. Voyeurisme funèbre, non. Acte totalement délibéré, car Sarah Bernard n'est pas morte, elle dort paisiblement. Ou plutôt, elle joue l'endormie dans une mise en scène dont elle sait qu'elle marquera les esprits et suscitera l'attention de ceux qui ne l'avaient pas encore remarqué. Son cercueil en bois de rose ajoute une note certaine à la décoration macabre de son appartement parisien au mur déjà tendu de satin noir et dans lequel elle expose un crâne humain. Dans cette bière élégante, Sarah Bernhardt dit faire de courtes siestes ou bien relire les rôles dont elle doit apprendre le texte. Si la pratique choque ses contemporains de la Belle Époque, elle n'est pourtant pas si étonnante considérant la passion de la comédienne pour les morts théâtrales. Chaque soir sur les planches, la grande Sarah interprète des agonies spectaculaires qui font s'émouvoir des salles entières. Elle sait particulièrement bien révulser les yeux et s'évanouit parfois pour de vrai, tant elle est habitée par chacun de ses personnages. « Je me quitte », dit-elle, quand elle sort de sa loge pour entrer sur la scène. Sarah Bernhardt naît en octobre 1844 à Paris d'une mère juive hollandaise, demi-mondaine et de père inconnu. Tout au long de sa vie et bien des années après sa mort, un mystère épais entoure ses origines. Un mystère largement entretenu par l'intéressée elle-même. La petite fille grandit dans des institutions religieuses, loin de sa maman qui la délaisse. Après avoir un temps envisagé de prendre le voile, l'adolescente de 14 ans retourne finalement à la vie civile et retrouve sa tante, amante du demi-frère de Napoléon III, le duc de Morny. Convaincue de l'importance de l'éducation des jeunes filles, l'aristocrate inscrit la jeune Sarah dans une école de dessin et de peinture, où son talent fait merveille. Il lui fait également découvrir le théâtre depuis sa loge de la Comédie française et lui suggère de se présenter au concours du conservatoire. Elle accepte. Mais le jour venu, Sarah Bernhardt n'est pas prête. Elle n'a personne pour lui donner la réplique et choisit au dernier moment de réciter une fable de La Fontaine. Un choix incongru, mais qui fonctionne. Sans même attendre les résultats officiels, le jury la déclare reçue à l'unanimité. C'est le début d'une carrière extraordinaire. Après 2 années d'apprentissage, elle entre à la Comédie française. L'actrice, encore débutante, est déjà intraitable. Elle ne tarde pas à se faire renvoyer pour avoir giflé une doyenne de la compagnie. Sarah la Scandaleuse construit sa réputation. Sans revenu, la comédienne est contrainte de monnayer ses charmes auprès de riches industriels, de banquiers, de diplomates et de marquis. D'autant qu'elle a eu entre-temps un enfant, Maurice, avec un noble belge, Charles-Joseph-Eugène-Henri, prince de Ligne, hors mariage évidemment. En 1869, à 25 ans, Sarah Bernhardt connaît enfin son premier grand succès populaire sur la scène de l'Odéon, dans une comédie où elle a l'audace de jouer travestie un poète, un trouvère adolescent. Le public découvre sa chevelure presque rousse et crépue et son regard bleu azur. Il est séduit par sa silhouette svelte et androgyne qui détonne à une époque où la mode est aux courbes et aux rondeurs. Sarah Bernhardt a une diction parfaite et une présence scénique incontestable. Son attitude, ses poses, le jeu de ses bras et de ses mains ont quelque chose de magique. Les critiques sont élogieuses, le public est conquis. Et voilà Sarah Bernhardt conviée à jouer à la cour devant le couple impérial, Napoléon III et l'impératrice Eugénie. 3 ans plus tard, elle joue Ruy Blas devant Victor Hugo lui-même, qui la surnomme émue la voix d'or. La Comédie française la rappelle, elle joue Phèdre et Hernani, mais pas pour longtemps. La divine, comme d'autres la surnomment, entend imposer ses propres règles. Aux États-Unis, on lui propose jusqu'à l'équivalent de 5000 francs par représentation, contre 400 seulement au théâtre français. Alors, Sarah Bernhardt part en tournée à New York, Los Angeles et dans l'Ouest américain. On la verra au Pérou, au Chili et jusqu'en Australie. La vedette joue en français, mais qu'importe. On vient pour sa voix, sa gestuelle et surtout pour dire qu'on l'a vue. Sarah Bernhardt est la première grande star internationale, bien avant Hollywood et son cinéma. Son impresario associe son image à des publicités, des affiches qui depuis peu recouvrent les murs des villes. Incrédule, la star tombe nez à nez avec elle-même devant des réclames vantant le goût d'un cigare, les bienfaits d'une absinthe, d'un fer à friser ou d'une poudre de riz. D'abord réticente, la comédienne se laisse convaincre. Oui, c'est ainsi qu'elle acquiert plus de notoriété et un public toujours plus nombreux. Elle a tout compris de l'importance grandissante de l'image. Et la sienne fait vendre. Heureusement, car Sarah Bernhardt dépense aussi énormément. Alors elle repart souvent en tournée. L'actrice voyage léger. Une 40aine de malles de vêtements et quelques centaines de paires de chaussures, tout au plus. Elle ne se déplace pas non plus sans sa vaisselle, sa literie, ses amis et sa ménagerie. Boa, lionceau et bien sûr son alligator, Ali Gaga, prétendument décédé d'un excès de champagne. Même son cercueil parfois la suit dans ses déplacements, aux grandes dames des hôteliers qui la reçoivent. Omniprésente dans les rues et dans les magazines, Sarah Bernhardt devrait-elle se méfier de lasser son public ? Alors que le 19e siècle vit ses derniers instants et que la tragédienne approche des 60 ans, une question se pose. Le siècle nouveau la fera-t-elle passer de mode ? À la toute fin de l'année 1894, un imprimeur parisien reçoit un coup de fil de Sarah Bernhardt. Elle veut commander en urgence des affiches pour son prochain spectacle. Mais voilà, tout le monde est en congé. C'est donc un jeune illustrateur tchèque inconnu, ou presque, Alphonse Moucha, qui s'y colle. Il dessine une effigie de l'impératrice du théâtre, tout en courbe et en couleur, rehaussée de motifs végétaux. Voilà Sarah, égérie du style Art Nouveau, qu'elle incarne désormais mieux que quiconque. Après 30 ans de carrière, la comédienne a le talent de rester à l'avant-garde. En 1900, pour l'Exposition universelle de Paris, est diffusé son premier film, « Le duel d'Hamlet ». Elle est l'une des premières à accepter de tourner au cinéma, un genre encore mal considéré. Sur le plan politique aussi, Sarah Bernhardt est en avance sur les questions de son temps. Engagée auprès d'Émile Zola pour la défense du capitaine Dreyfus, elle se bat aussi contre la peine de mort et pour les droits des femmes. Pionnière dans tous les domaines, l'artiste teste la chirurgie esthétique pour tenter d'atténuer les rides de son visage, d'abord aux États-Unis, puis en France, auprès d'une femme d'ailleurs, Suzanne Noël, une précurseur de la discipline qui bientôt soignera les gueules cassées. Le tout en continuant de jouer, bien entendu. En 1915, une maladie l'oblige à se faire amputer de la jambe droite. Sarah Bernhardt a 70 ans. Il en faut plus pour la faire renoncer à la scène où elle se produit désormais assise. Et c'est sur une chaise construite sur mesure, portée comme une impératrice de Byzance, dit-elle, qu'elle se rend sur le front de la Meuse pour soutenir les poilus. Sa mort, il y a tout juste 100 ans, le 26 mars 1923, met un terme à une carrière de près de 60 ans. Dans Paris, une foule immense l'accompagne jusqu'au Père-Lachaise. C'est là, dans une tombe que Sarah Bernhardt a dessinée elle-même, comme il se doit, qu'elle se met en scène pour la dernière fois. Le monument funéraire en forme de cercueil représente celui dans lequel elle s'était si souvent faite immortaliser de son vivant.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Sarah Bernhardt avec Clémentine Portier-Kaldelbach, nous avons le plaisir d'accueillir deux femmes qui lui rendent hommage chacune à leur manière. Bonjour Hélène Tierchant et bonjour Annick Lemoine.
Bonjour Stéphane.
Bonjour Stéphane.
Annick Lemoine, vous êtes la directrice du Petit Palais à Paris qui présentera à partir du 14 avril prochain une exposition événement consacrée à Sarah Bernhardt dans laquelle seront présentées 400 œuvres retraçant son extraordinaire parcours. On trouvera notamment plusieurs objets que la divine possédait et qu'elle entreposait dans son appartement parisien. Est-ce qu'on va voir son fameux cercueil ?
Alors hélas non, car le cercueil a disparu, mais vous pourrez découvrir la célèbre photographie de Mélandry, la représentant telle que vous l'avez décrite, et puis une sélection d'objets merveilleux, extraordinaires, qui lui ont appartenu et qui témoignent de son faste, du faste bohème de ses demeures.
Et vous, Hélène Tierchant, vous venez de publier une nouvelle biographie de Sarah Bernhardt aux éditions Talendier, une biographie dans laquelle vous explorez toutes les facettes de la divine. Qu'est-ce que ces bizarreries, cette fascination aussi pour le morbide dont on parlait, racontent de la personnalité de Sarah Bernhardt ? Est-ce que, à n'en pas douter, c'était une excentrique ?
C'était une excentrique, mais il faut comprendre que ça cache, cette façon de conjurer la mort, cache une fragilité naturelle. Sarah Bernhardt était une bâtarde, son père ne l'a pas reconnue, sa mère ne l'aimait pas, elle l'a envoyée 4 ans en nourrice et jusqu'à 4 ans, la voix d'or, la divine, n'a parlé que breton. C'est quand même un paradoxe. Et après, elle l'a mise au couvent jusqu'à 15 ans, où elle n'allait même pas la visiter. Et Sarah Bernhardt a pris, la petite Sarah Bernhardt a pris comme devise quand même. Elle voulait être remarquée quand même, être aimée quand même.
Et cette fascination pour la mort, alors, a un lien avec cette histoire de sœur. Mais Sarah Bernhardt, la star, a-t-elle des caprices de star ?
Elle a non seulement elle a voulu un cercueil pour son anniversaire, elle avait aussi dans sa chambre un squelette qu'elle appelait Lazare et qui était soi-disant, c'est Pierre Loti qui le raconte, le squelette d'un jeune homme qui était mort d'amour pour une jeune femme qui ne l'avait pas aimée. Elle avait des chauves-souris empaillées autour de son miroir. Mais c'était aussi, il faut penser que c'était dans l'air du temps. Victor Hugo, à la même période, écrivait des romans gothiques. Victor Hugo a offert à Sarah Bernhardt un crâne sur lequel est gravé un poème. Donc Sarah Bernhardt s'est aussi nourrie de cette ambiance morbide de l'époque. Mais il faut savoir qu'en même temps, elle était très très gaie, elle était exubérante, elle adorait faire des farces. Au couvent, elle a caché, dès qu'il y avait un visiteur, elle cachait le chapeau, elle a caché le shako d'un gendarme jusqu'à faire un scandale. Elle dansait, elle riait, elle était insatiable de la vie.
Annick Lemoine, Sarah Bernhardt était une muse pour les nombreux artistes qu'elle côtoyait. Elle a été représentée à maintes et maintes reprises sur les toiles, que l'on pourra d'ailleurs bientôt admirer au Petit Palais. Quel est son portrait le plus emblématique ?
Je pense que c'est le portrait signé de Clairin en 1876, un très grand format que nous conservons au Petit Palais. Sarah a 32 ans, elle connaît ses premiers triomphes, hein, c'est la gloire montante du théâtre français. Elle pose avec une nonchalance particulièrement étudiée, accoudée sur un amoncellement de coussins, l'une main tenant sa tête, de l'autre un magnifique, luxueux éventail blanc. Elle nous regarde fixement de ses grands yeux bleus sous sa frange bouclée. Et elle est vêtue d'un déshabillé, c'est ce qu'on appelle une robe d'intérieur en satin blanc, qui dessine assez moulant, qui dessine sa silhouette longiligne et sinueuse. C'est son portrait préféré, elle le conserve toute sa vie. Et du reste, à sa mort, son fils chéri, Maurice, va l'offrir au Petit Palais.
Elle avait certainement validé ce tableau. Elle a saisi très vite l'importance de la promotion de la diffusion de sa propre image. Est-ce qu'on peut dire, Hélène Tierchant, c'est inapproprié, mais de dire de Sarah Bernhardt, d'une certaine manière, elle a été une influenceuse à
Absolument.
L'époque.
Elle débarque en Amérique en 1880. Et sur l'invitation d'un imprésario, j'arrête, et elle va découvrir des images. Les murs sont couverts d'affiches, la montrant quelquefois double, maigre. Et on voit à côté une image retouchée où on la voit rosie, remplumée. Et Sarah Bernhardt, après avoir mangé les haricots, un tel, après avoir bu le bitter, un tel. Donc on peut dire qu'elle a été une influenceuse parce que toutes les femmes voudront porter les mêmes bijoux, les mêmes costumes et le même parfum.
Et à propos de costumes, Annick Lemoine, est-ce que ces costumes ont été conservés ?
Alors oui. Ils sont rares parce qu'évidemment, elle déménage de nombreuses fois, elle fait toutes ses tournées et emmène à chaque fois tous ses costumes. Mais on en conserve quelques-uns et nous les présentons dans une galerie qui met en scène ses grands rôles. Donc vous pourrez par exemple découvrir les costumes et accessoires d'un l'un de ses grands rôles, Théodora, où elle va s'inspirer de la Byzance et des mosaïques de Ravenne et elle suit tous les détails à la fois de la réalisation des décors et de ses costumes. Nous présentons donc une extraordinaire cape en toile de coton ivoire brodée de médaillons de perles et de cabochons. Ou bien encore une haute tiare métallique ornée de cabochons de couleur hein, qui évoque les impératrices de Byzance, ou encore une coiffe toute de fils dorés et de pierres de couleur or, bleu, turquoise. Vous verrez aussi le diadème de la princesse lointaine ou bien la cuirasse en cuir blanche de Jeanne d'Arc ou encore la robe ornée de fleurs de froufrou, autant de costumes extraordinaires qu'elle a portés.
Moi, j'aimerais bien que Hélène Tierchant nous dise aussi quelques mots du jeu de Sarah Bernhardt. On dit que c'était une interprète virtuose, mais alors, quand on entend les quelques enregistrements qu'on a conservés, pour un public moderne, il y a une espèce d'emphase qui nous paraît incroyable. Quel effet faisait-elle au public ? C'était dans l'air du temps, cette espèce de ce côté un peu grandiloquent dans lequel on déclamait, c'est ça ?
Oui, mais il faut dire qu'au début de sa carrière, elle ne déclamait pas du tout. Elle avait appris à parler, à articuler. Elle avait un défaut de prononciation qui lui venait de naissance, de sa mère. Et elle raconte qu'en conservatoire, on lui avait mis un espèce d'appareil en caoutchouc de façon à ce qu'elle articule parfaitement. Donc, elle avait une diction qui bouleversait Victor Hugo. Il disait qu'elle avait une voix d'or. D'autres parlaient d'une voix cristalline. Et elle pouvait à la fois absolument être classique, et au fur et à mesure de sa carrière, elle a appris à jouer tous les rôles. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement sa voix, c'est sa gestuelle. Et les journalistes disaient, on a l'impression qu'elle est nue sous sa tunique. Elle a l'impudeur d'une gypsy, d'une bohémienne. Suivant, elle sentait son public et elle pouvait être à la fois monotone, triste et le fasciner par sa morbidité. Et au contraire, comme dit Louis Jouvet, qui l'a vu dans Phèdre, il dit à un moment, elle devient une panthère. Elle feule, elle rugit et elle nous subjugue. On est ensorcelé.
Cela dit, elle se promenait aussi avec des bêtes sauvages. Hein. Oui. Ça fait partie de la légende de Sarah Bernard. Merci Hélène Tierchant et Annick Lemoine. Vous restez avec nous toutes les deux parce que la suite continue avec Sarah Bernard.
Europe 1. Historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
Tous les jours, vous le savez, Historiquement vôtre, je vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoine qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre.
Oui, alors aujourd'hui, franchement, l'indice musical va être très très simple. J'ai fait écouter.
Il était une fois une jambe de bois qui cherchait un amateur.
La jambe de bois de Sarah Bernard.
Exactement, mais vous êtes tellement fort, Stéphane. Bravo, c'est ça.
Dont on ne sait pas si elle l'avait vraiment ou si c'était une légende.
Justement, on va en parler dans ce quiz.
C'est une légende, Hélène Dierchamps.
C'est une légende.
C'est une légende.
Elle n'a jamais supporté de prothèse.
Mais non, bien sûr. Mais elle avait gardé sa jambe ou pas?
Non.
On dit qu'on l'a retrouvée dans un hôpital bordelais il y a quelques années.
Oui, mais c'était la fausse. La jambe gauche et pas la jambe droite.
Ah, dommage.
On lui a coupé les deux.
Excusez-moi, il faut que je parte, il faut que je change une question là. Parce que vous venez d'en révéler beaucoup.
Eh bien, avant cet affrontement avec Clémentine, on va lui laisser la parole parce qu'elle veut nous parler de Sarah Bernard, l'artiste.
Dans l'intimité de l'histoire.
Oui, aujourd'hui, Clémentine, à l'occasion du centenaire de la disparition de Sarah Bernard, vous nous racontez, toujours en présence de nos illustres invités, l'historienne et écrivaine Hélène Tierchant et la directrice du Petit Palais, Annick Lemoine, la double vie de celle qui n'était pas que comédienne, mais aussi artiste peintre et sculptrice.
Et oui, Stéphane, vous avez commencé tout à l'heure à nous le raconter, à raconter comment le protecteur de Sarah Bernard, le duc de Morny, lui avait offert des leçons de dessin dans un cours privé parce qu'il avait pu observer qu'elle était très douée. Et alors, j'ai découvert, pour ma part, dans le livre d'Hélène Tierchant, comment Sarah Bernard s'était mise finalement à la sculpture à la suite d'un incident. C'est parce que sa rivale à la Comédie Française, Sophie Croisette, était la maîtresse de l'administration de la Comédie Française, donc il lui donnait tous les premiers rôles, et du coup Sarah Bernard, qui avait l'habitude de jouer quasiment tous les soirs, là ne jouait plus que deux à trois fois par semaine, elle en avait marre, donc elle s'est dit, il faut que je fasse autre chose, elle le raconte dans son livre Ma double vie, ne pouvant dépenser au théâtre mes forces intelligentes et mon désir de créer, je l'ai mise au service d'un autre art, et je me mis à travailler la sculpture avec une folle ardeur. Les rudiments de la sculpture lui sont enseignés, nous raconte Hélène Tierchant, par le célèbre statuaire Mathieu Meunier, pour lequel elle a posé. Et tout en posant pour lui, elle devait d'ailleurs être un modèle assez épuisant, elle lui posait naturellement toutes sortes de questions sur la sculpture. Et comment faites-vous ceci? Et qu'utilisez-vous comme instrument? Etc. Et le sculpteur attendri lui a enseigné les rudiments de son art. Alors elle se loue un atelier au pied de la butte Montmartre, 11 boulevard de Clichy, et tous les jours à 17h, elle y reçoit amis et admirateurs. Et effectivement, là aussi, il y a une forme de mise en scène, parce que cet atelier, il y a des coussins, des tentures, enfin ça, c'est aussi très à la mode au 19e siècle, on couvre tout, on couvre les pianos, on couvre les cheminées, on couvre les fauteuils, donc il y a quelque chose de très opulent. Et évidemment, elle se donne aussi en spectacle quand elle sculpte, nous raconte Hélène Tierchant, parce que qui dit spectacle, qui dit théâtre, dit costume. Alors elle se fait faire un pantalon, ce qui est quand même une chose assez rare pour une femme. C'est ce que faisait Rosa Bonheur aussi. Elle se mettait en pantalon pour aller peindre, mais enfin, ça n'était pas la loi du genre. Et la divine réalisera les bustes de nombreuses personnalités de la politique, du spectacle ou de la littérature. Et là, vous dites, Hélène Tierchant, que la seule personne qui ait refusé de se faire faire un buste par Sarah Bernard, c'était Flaubert. Alors pourquoi, selon vous, Flaubert a-t-il refusé de poser?
Elle a joué pour Flaubert, elle a joué une des pièces que Flaubert avait mis en scène, de Louis Bouillet, qui était décédé à Issé. Donc ils étaient vraiment amis et elle admirait l'écrivain. Mais Flaubert avait une pudeur, il pensait qu'il était déjà un peu âgé et il était grossi, il avait ses crises d'épilepsie. Il pensait qu'il avait une tête, entre guillemets, de vieux boucher. Et il ne voulait pas être immortalisé. Ouais. Il y a très peu de portraits de Flaubert. Hein. C'était un homme pudique qui ne s'aimait pas physiquement.
Et donc, lui refuse, mais la cour et la ville se pressent pour être portraiturés par elle. Est-ce qu'il y a aussi un effet, l'artiste féminin, est-ce que c'est encore une gageure d'être une femme sculpteur à l'époque? Est-ce qu'il y en a quelques-unes?
Il y en avait dans l'aristocratie. Mais elle a eu aussi un client qui était Alphonse de Rothschild, le banquier, qui l'a beaucoup aidé dans sa vie, qui l'a aidé au moment de... quand elle a créé son ambulance à l'Odéon, qui a donné un petit peu d'argent au moment de, où on lui a coupé la jambe. Alphonse de Rothschild vient, paye 10 000 francs or à l'époque, ce qui était quand même une petite fortune, pour qu'elle fasse son buste. Il n'est pas content du résultat. Il lui fait un chèque, mais il lui dit « gardez le buste ». Et Sarah Bernhardt, vexée, déchire le chèque devant lui et casse le buste en petits morceaux et lui fait envoyer les morceaux.
Vous racontez aussi comment elle transgresse les conventions. Oui. Elle va étudier l'anatomie et si l'on en croit la rumeur, écrirez-vous, elle assiste à quelques séances de dissection, ce qui est bien raccord avec cette fascination pour la mort. Rien ne lui fait peur et pas même de s'attaquer à cette composition magistrale représentant une vieille femme tenant sur ses genoux un petit noyé. C'est une idée qu'elle a eue pendant un voyage dans le Finistère avec Gustave Doré. Et cette œuvre va être reçue au salon en 1876, c'est une œuvre qui est intitulée « Après la tempête ». Alors ça suscite à nouveau la polémique, on raconte qu'elle a eu un nègre, que c'est pas du tout elle qui l'a créé. Et alors surtout dans des termes évidemment qui aujourd'hui feraient jaser dans les chaumières. L'œuvre est à mille lieues des bustes qu'elle modèle d'ordinaire et elle paraît trop puissante pour être de la main d'une femme. Enfin écoutez, quand on connaît Sarah Bernhardt, est-ce qu'une œuvre peut être trop puissante pour être de sa main? Elle n'a qu'une mention honorable pour ce groupe. Mais elle ne se tient plus de joie parce qu'elle l'écrit elle-même. Il me semblait maintenant que j'étais née pour être sculpteur et je commençais à prendre mon théâtre en mauvaise part. Je n'y allais que par devoir et je me sauvais le plus vite possible. Et il faut dire que ces statues ont une certaine cote assez vite. En 1879, vous racontez qu'un richissime marchand d'art anglais, Ernest Gambard, lui achète 10 000 francs après la tempête. Il va en faire des réductions en bronze. Et ce groupe fait aujourd'hui partie des collections du Musée national des femmes artistes de Washington. Le style de Sarah Bernhardt évoluera au fil des années. Elle s'affranchit progressivement de toute contrainte, de toute convention. Elle s'efforce de traduire dans la glaise ses obsessions, alors en sculptant notamment le fou et la mort, cette œuvre qui représente le bouffon Triboulet tenant en main le crâne de sa fille. Et sur le piédestal, Sarah Bernhardt a gravé une strophe d'une charogne, le poème de Baudelaire. « Oui, telle vous serez, ô la reine des grâces, après les derniers sacrements, quand vous irez sous l'herbe et les floraisons grasses, moisir parmi les ossements. Oui, telle vous êtes, Sarah Bernhardt, dormant sous l'herbe grasse depuis 100 ans, mais vos œuvres, elles, par bonheur, sont immortelles. »
Merci beaucoup Clémentine. Annick Lemoine, on trouvera ces œuvres, les œuvres de Sarah Bernhardt au Petit Palais dans l'exposition?
Oui, bien entendu. Hein. Je pense que ça sera l'une des grandes découvertes de l'exposition. Nous avons pu réunir une exceptionnelle sélection d'œuvres de Sarah Bernhardt. Le fou et la mort, par exemple, que vous évoquiez tout à l'heure. Mais également son autoportrait en chimère, une sorte d'étrange objet, un encrier merveilleux. Quelques portraits, par exemple, de son ami, amant, portraitiste attitré... Georges Clérin ou de Louise Abéma, autre amie fidèle, amante, maîtresse peut-être, cette peintre que vous découvrirez à l'exposition. Et puis, je voudrais insister parce que pour moi, ce sont les plus belles œuvres de Sarah Bernhardt, là où elle est la plus créative et inventive. Ces extraordinaires sculptures, ces bronzes en forme d'algues, puisqu'à la fin de sa vie, elle achète un fortin à Belle-Île. Et elle va ramasser algues, coquillages, poissons et s'en inspirer pour créer des sculptures Art Nouveau, particulièrement originales, comme cette dague en forme d'algue. En fait, elle moule les algues et ensuite elle les fait couler en bronze. Et vous verrez une sélection riche, originale de ces sculptures.
Eh bien, merci Annick Lemoine. On pourra admirer les créations de Sarah Bernard au Petit Palais à Paris à partir du 14 avril prochain à l'occasion de l'exposition événement Sarah Bernard et la femme créée à la star. Et merci à vous Hélène Tirchand. Je rappelle que votre livre, Sarah Bernard, scandaleuse et indomptable, est disponible aux éditions Talendier. Et voilà, et maintenant, c'est le moment de l'émission. Vous le savez, chers auditeurs, je ne contrôle plus rien puisque c'est Jean-Luc qui prend la main pour le quiz Bern to be alive qui est spécial Sarah Bernard, évidemment. Ah, entrez.
Laissez-vous porter par les trois coups, Stéphane. Entendez le public qui murmure aujourd'hui. C'est un peu une spéciale théâtre, car pour clôturer en beauté cette heure spéciale, toutes les questions portent sur Sarah Bernard. Bon, faut avouer que ce quiz, c'est un peu tous les jours une tragicomédie. Mais peut-être encore plus aujourd'hui. Allez, mes deux monstres sacrés, jouons. On commence avec vous, Stéphane. Situé place du Châtelet à Paris, a existé le Théâtre des Nations. En 1889, il devient le Théâtre Sarah Bernard. Débaptisé par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est aujourd'hui le Théâtre de la Ville. Dans ce théâtre, on peut voir la loge de Sarah, reproduite à l'identique. On peut s'apercevoir alors qu'elle avait tout l'appareillage pour prendre son tube. T-U-B. Alors prendre son tube, c'était prendre un médicament contre la douleur en le sniffant. Mais rien à voir avec la drogue, hein. Vrai ou faux?
Alors... Donc la loge, tout ça c'est vrai, mais prendre son tube, non, je pense que ça veut dire autre chose.
Un tube, c'est un bain, me semble-t-il.
C'est pas
un tub. Il me semble que c'est un bain, c'est pas.
Et comment vous dites
pas... Hein? Un tub.
Un tub.
J'aime tellement vous entendre dire ça.
Un tube.
Moi, il me semble que c'est un bain.
Oui, mais je pense pas que ça soit prendre des médicaments comme ça. J'y crois pas.
Vous pensez pas qu'il prenait des médicaments par la tub?
Non.
Ok, d'accord, très bien. Vous dites non ?
Si, non.
Allez, on reste là-dessus.
Vous avez gagné.
Voilà, vous aviez raison, prendre son tube, c'était prendre sa douche. Très à la mode, un tub, et, ou un tube, hein, vous prononcez comme vous voulez, était un bassin en zinc dans lequel on pouvait se laver à l'éponge.
Bien sûr, ça a la forme d'un haricot un peu.
Eh bien, parlons de haricots avec vous, Stéphane.
Non, c'est Clémentine maintenant.
Je vous confonds toujours tous les deux. Je n'arrive pas à me faire.
La coiffure.
Sarah Bernard avait un seau.
S-O-T.
Non.
S-C-E-A-U.
Exactement, un SB avec une épée et un masque de théâtre. Un peu comme vous d'ailleurs. Vous avez les mêmes initiales à SB. Sauf que vous, c'est avec un bousquet et un teckel.
Oui.
Et donc, ce seau de Sarah Bernard était barré d'une banderole sur laquelle était inscrite sa devise. Mais c'était quoi sa devise à Sarah Bernard? Quand même.
Quand même.
Quand même, oui.
Malgré tout. Ou c'est celui qui dit qui est.
Quand même, c'est quand même.
Surtout qu'Hélène Tirchand nous l'a dit au début d'émission.
De toute façon, c'est un peu suicidaire de faire un quiz après Hélène Tirchand. Oui, je vais vous dire, et je pense que ça ne va pas s'arranger avec les questions suivantes. Alors, on ne va pas jouer le suspense, on écoute la réponse.
Vous avez gagné.
On passe à la suite tout de suite. Hein, et je pense qu'elle va aller très très vite aussi, celle-là. La jambe de Sarah Bernard est aujourd'hui à la faculté de médecine de Bordeaux. Mais rassurez-vous, dans du formol. Vrai ou faux?
C'est la fausse jambe de Sarah Bernard qui est dans du formol à Bordeaux. C'est la jambe gauche. Or, celle qu'on lui a coupée, c'est la jambe droite. Donc,
C'est comme la prostate du général de Gaulle. Il y a des reliques organiques comme ça dont on se raconte entre carabins qu'elles ont appartenu à un haut personnage. Et donc, ça a été le cas de cette jambe retrouvée à Bordeaux.
Elle avait peut-être deux jambes gauches. Vous ne savez pas, ça arrive.
Peut-être qu'on lui a coupé les deux jambes.
Exactement, exactement.
Pour équilibrer le buste.
Donc vous dites vrai ou faux?
Ben c'est faux.
C'est faux, allez.
Vous avez encore gagné.
C'était simple, c'était
sans
simple. Mon goût pour l'exactitude m'oblige à dire qu'on n'en sait rien. On a cru à un moment qu'elle avait été retrouvée à la faculté de médecine de Bordeaux, mais comme vous l'avez si bien dit, c'était une jambe gauche, donc impossible que ce soit celle de Sarah. On pense que la vraie jambe d'ailleurs a été incinérée par erreur. La seule chose qu'on sait vraiment, c'est qu'on ne sait rien. Une question pour Clémentine, peut-être pour égaliser. On connaît cette citation de Sarah Bernard. Vous n'avez pas le trac, ça viendra avec le talent. Mais parmi ces autres citations, laquelle est de la tragédienne? L'amour, c'est un coup d'œil, un coup de rein et un coup d'éponge. Il faut toujours être amoureux, donc jamais se marier. Ou j'aimerais qu'on m'aime comme un chien.
Est-ce que c'est elle qui a... Cette phrase est connue, c'est un coup d'œil, un coup de rein, un coup d'éponge.
En même temps, elle aimait bien les chiens.
Ouais. La seconde, il faut toujours être amoureuse.
Donc, ne jamais se marier.
Elle s'est mariée. Donc.
J'aimerais qu'on m'aime comme un chien.
Bah, j'aimerais qu'on m'aime comme un chien, peut-être.
Vous êtes sûr?
Parce que il faut toujours être amoureuse, jamais se marier. Ça... Et le premier, je la connais cette citation, mais je vois.
On l'associe pas forcément.
Je l'associe pas à Sarah Bernhardt.
Alors, ce sont trois citations célèbres. Les trois existent.
Oui, oui. Ah oui, puisque la première, je la connais, mais c'est pas Sarah Bernhardt. C'est, à mon avis, ça se joue entre il faut jamais se marier et toujours être amoureuse. Et
j'aimerais qu'on m'aime comme un chien.
Non, alors c'est peut-être il faut jamais se marier et toujours être amoureuse.
On parle là-dessus?
Oui.
On vérifie.
Vous savez. Perdu.
Désolé, mais là, je ne pouvais pas plus vous aider parce que la bonne réponse, c'était l'amour. C'est un coup d'œil, un coup de rein et un coup d'éponge.
Oui. Parce que le coup d'éponge me paraissait d'une trivialité que je ne lui imaginais pas.
Avec le sens de la formule.
Donc, c'était bien elle, oui. Donc, j'étais de toute façon, j'étais pas parti là-dessus.
Toujours amoureux, jamais se marier, c'est qui d'après vous?
Sacha Guitry?
Non.
Non, puisqu'il s'est marié
quatre fois.
Pas ça. Mais ça aurait été rigolo. Qui a pu dire ça?
C'était un étranger qui est mort en France.
Oscar Wilde.
Oscar Wilde, exactement. Et j'aimerais quand même comme un chien. Quelqu'un de très célèbre. Une penseuse.
Une penseuse, Simone de Beauvoir.
Non. C'était Laure du Loft 1. Loft Story. Désolé.
On était loin de Simone de Beauvoir.
Bon,
et vous compilez les pensées de,
aussi.
Des jeunes du Loft. Oui.
Ah, je pense qu'on aura bientôt du Aziz.
Oui, on n'aura plus que ça à se mettre sous là dans Stéphane.
Écoutez, il faut vivre avec son époque. Hein. En tout cas, bravo, c'est une victoire de Stéphane.
Et historiquement, votre continue avec nos personnages du jour qui ont mis en scène leur propre mort.
Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Sa mort a marqué la fin du plus long règne de l'histoire de France. Règne flamboyant, symbole de l'hyperpersonnalisation du pouvoir, tant il est vrai que Louis XIV a mis en scène les moindres détails de sa vie quotidienne, du début de son règne jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Je vous raconte maintenant les derniers jours du roi Soleil, Louis XIV. C'est un étrange ballet qui se joue à Versailles en ce 26 août 1715. Un ballet bien différent de ceux auxquels Louis XIV, dans sa jeunesse, avait habitué sa cour. Pas de musique ni de danse, mais les entrées et sorties silencieuses et mues des différents groupes admis dans la chambre du roi. À ses officiers réunis devant les balustres dorés, le roi Soleil fait ses adieux. « Je m'en vais, messieurs, je m'en vais, mais l'État demeurera toujours. » Voilà quelques mois que le plus grand souverain d'Europe sent sa fin approcher. Le 3 mai, dans son domaine de Marly, il a assisté à une éclipse de soleil qui a résonné en lui comme un sombre présage. Il a près de 77 ans. Louis Dieudonné est né en effet le 5 septembre 1638 à Saint-Germain-en-Laye. Comme un miracle, ses parents, le roi Louis XIII et sa femme Anne d'Autriche, ont vécu des années sans donner d'héritier à la couronne. Le petit garçon connaît une enfance mouvementée entre la mort de son père à 4 ans et les troubles de la Fronde qui l'obligent à fuir de Paris. Mais en 1654, Louis est sacré roi de France à Reims. À 20 ans, il épouse sa cousine, l'infante Marie-Thérèse, signant la paix entre la France et l'Espagne. 2 ans plus tard, débute son règne personnel, celui d'un roi absolu, lieutenant de Dieu sur terre, et dont les moindres détails de la vie répondent à un minutieux scénario. Chaque matin, le lever du roi est une véritable cérémonie. Le petit lever d'abord est réservé à la vieille nourrice du roi, la première à l'embrasser, tandis que son médecin et son chirurgien s'enquièrent de sa santé et inspectent ses selles et ses urines. Les grandes entrées ensuite concernent les enfants du souverain légitime et bâtard. Valets de chambre, premier gentilhomme, grand chambellan et autres officiers domestiques viennent ensuite. Louis revêt sa perruque, puis il achève de s'habiller devant ses courtisans pour le grand lever. Le soir, Louis XIV se donne en spectacle à travers le grand couvert, un souper auquel assistent de nombreux courtisans, debout, tandis que le roi, accompagné de sa famille, se voit présenter une succession de plats qui prouvent sa santé et celle de son royaume. À 23 heures, a lieu la cérémonie du coucher et la chambre royale se vide progressivement dans le sens inverse à celui du matin. Ainsi va la vie à Versailles durant le plus long règne de l'histoire de France. On l'avait peut-être cru immortel. Mais le roi vieillit pourtant. Les dernières années ont été difficiles. L'hiver 1709 a été particulièrement froid et cruel. Le peuple, harassé d'impôts et fatigué des guerres incessantes, meurt dans la famine et la misère. Sur le plan personnel, le roi a perdu son fils, son petit-fils et son arrière-petit-fils aîné. En moins de 2 ans, ses 3 héritiers directs ont disparu. Ne reste qu'un tout jeune garçon dont on doute des chances de survie. La situation est loin d'être idéale. Quand le 10 août 1715, une forte douleur prend le roi à la jambe. Le médecin diagnostique une sciatique. C'est un début de gangrène. De retour à Versailles, Louis XIV reprend la vie de cour comme si de rien n'était. Il fait illusion, mais il ne peut plus marcher. Dans les jardins de Trianon, le grand roi est poussé sur un siège de velours rouge doté de 3 roues dont il tient le gouvernail. 3 jours plus tard seulement, le 13 août, le souverain est contraint d'interrompre son souper au grand couvert. Il ne peut masquer davantage ses souffrances. La cour s'inquiète. Le roi dort mal, la fièvre ne le quitte plus. Les traitements à base de quinine et de lait d'ânesse n'ont aucun effet. Sur sa jambe gauche, les taches progressent. Son corps nécrose, une conséquence du diabète. On parle d'amputation, mais il est déjà trop tard. Louis XIV a compris. D'abord abattu, paniqué, il se reprend vite pour organiser sa disparition et régler les moindres détails, pour mourir comme il a vécu, en incarnant la souveraineté. Le 25 août, le roi Soleil se confesse et demande à recevoir l'extrême-onction. Au terme de sa vie, Louis XIV sait que le seul jugement auquel il devra jamais faire face est celui de Dieu. Le lendemain, il tient sa cérémonie d'adieu. Après avoir reçu ses officiers et passé de longs moments avec Madame de Maintenon, son dernier grand amour, il fait quérir cet arrière-petit-fils, le futur Louis XV, âgé de 5 ans et demi. C'est un moment émouvant. Le roi pleure et glisse ces quelques mots. « Mon mignon, vous allez être le plus grand roi du monde. Ne m'imitez pas dans les guerres. » Louis XIV doit encore endurer plusieurs jours. Il souffre. « Mon Dieu, hâtez-vous de me secourir. » Le 1er septembre 1715, après 10 jours d'agonie, le grand chambellan de la cour se présente au balcon de la chambre du roi, la tête couverte d'un chapeau à plumes noires. Il crie « Le roi est mort. » Il est 8h23. Les valets arrêtent toutes les horloges de Versailles. Pendant une journée, le corps est exposé dans la chambre. Embaumé, il passe une semaine supplémentaire dans le salon de Mercure où des messes sont dites en permanence. Dans la nuit du 9 septembre, un gigantesque convoi quitte Versailles en direction de Saint-Denis. À l'aube, symbole de la résurrection, le roi arrive à l'abbaye dont les murs ont été drapés de noir. Il y est veillé pendant plus de 40 jours par les moines bénédictins avant que les funérailles aient finalement lieu au mois d'octobre. Mais la bataille politique pour la succession du plus grand roi d'Europe n'a pas attendu si longtemps. Dès le lendemain de sa mort, le 2 septembre, le testament de Louis XIV est ouvert. Le neveu du roi, Philippe d'Orléans, est très mécontent de ne pas s'y voir confier les pleins pouvoirs et le titre de régent. Alors, s'achetant l'appui du Parlement de Paris en échange de la restitution d'un peu de son pouvoir législatif, Philippe fait casser le document. Le fils légitime de Louis, né de ses amours avec Madame de Montespan, n'obtient rien. Un roi, même tout-puissant, n'a plus aucun pouvoir, une fois mort. Pourtant, l'héritage de Louis XIV est immense et l'un de ses derniers souhaits confié lors de sa cérémonie d'adieu a été plus qu'exaucé. Il disait « J'espère que quelquefois, vous voudrez bien vous souvenir de moi. »
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Louis XIV, nous avons le plaisir d'accueillir l'une des commissaires de la grande exposition présentée à Versailles à l'occasion des 300 ans de sa mort en 2015. Bonjour Hélène Delalex.
Bonjour Stéphane.
Hélène Delalex, vous êtes conservateur du patrimoine au Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon. Le roi Soleil s'est éteint le 1er septembre 1715, dans la 73e année de son règne. Quels sont ses derniers mots à son successeur, le futur Louis XV? J'ai raconté, il lui a dit de ne pas l'imiter dans la guerre, mais il lui a prodigué d'autres conseils.
Oui, alors comme vous le disiez, ses dernières paroles, ce qu'on appelait un peu l'ultima verba depuis l'Antiquité, qui sont immédiatement racontées, transmises, mais sans doute les plus célèbres, évidemment, c'est celle à son arrière-petit-fils. Vous l'avez dit, il commence par cette allocution merveilleuse, « Mignon, vous allez être le plus grand roi du monde », qui traduit bien l'ambition aussi qu'a signé Louis XIV au rôle du roi de France sous son règne. Et puis ensuite, il lui indique que son bonheur va dépendre aussi de sa soumission à Dieu. Il revient plusieurs fois sur le fait qu'il faut soulager ces peuples. Et puis ensuite, effectivement, il lui dit « il ne faut absolument pas que vous m'imitiez sur le fait de faire la guerre, qui sont la ruine des peuples ». Et là, il a fait des confessions assez touchantes. Il dit qu'il l'a conduit de façon trop légère et puis aussi beaucoup soutenu par vanité. Et c'est vrai, finalement, quand on regarde le règne de Louis XV, c'est un règne beaucoup plus pacifique, évidemment, mis à part deux guerres, mais en tout cas, c'est rien du tout à côté des, il faut le rappeler, 30 ans de guerre continue sur les 54 ans de règne personnel de Louis XIV.
Comment l'annonce de la mort de Louis XIV est-elle faite au peuple? Comment l'information circule-t-elle par les paroisses? On imagine que certains sujets du roi de France ont appris la mort de Louis XIV des mois plus tard, le temps que ça arrive dans toutes les provinces du royaume.
Oui, tout à fait. Alors, il n'y a pas d'annonce, mais il y a une sorte de vague déferlante, comme ça, de transmission de l'information, alors à la fois à la cour, à Paris, dans tout le royaume, par le biais des gazettes, justement, et puis aussi à l'étranger. Et c'est vrai que c'est toujours fascinant de voir, à la fin du XVIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, la rapidité de cette transmission médiatique, on peut déjà l'appeler comme ça, de la transmission d'une information par le biais, effectivement, des courriers, des relais de poste qui sont absolument bien organisé à l'époque. Et ce qui est très amusant d'ailleurs, j'y pense, c'est que dans les dépêches, il était mentionné que le roi est mort, mais sans dire de qui il s'agissait, comme si effectivement le roi, ça ne pouvait être que Louis XIV, le roi par excellence, le plus grand roi d'Europe.
Jean-Luc.
Et à quel moment prononce-t-on la traditionnelle phrase « Le roi est mort, vive le roi » ?
Alors, cette phrase traditionnelle, elle est prononcée juste après que le roi meurt. Donc, il y a d'abord un profond silence, ensuite des prières de circonstance. Et après des prières, eh bien, le duc de Bouillon, qui est le grand chambellan dont vous parliez, qui est l'un des personnages les plus importants de l'État sous l'Ancien Régime, qui place dans la chambre du roi une plume noire sur son chapeau, qui sort donc dans ce qu'on appelle l'antichambre de l'œil de bœuf, et il annonce « Messieurs, le roi est mort ». Et puis ensuite, il rentre de nouveau dans la chambre du roi. Il change la plume noire en une plume blanche. Il reparaît au seuil de l'antichambre de l'œil de bœuf. Et là, il prononce trois fois à haute voix « Vive le roi Louis XV hein, », en mentionnant bien son successeur.
J'ai raconté dans mon récit qu'au lendemain de la mort du roi, le médecin procède à l'embaumement. Mais avant cela, on procède à ce qu'on appelle la tripartition du corps. C'est Hélène de Lalex, on sépare des...
C'est ça.
Ça
étonne beaucoup ce petit côté embaumement égyptien là pour les rois de France. Alors d'abord, déjà, il y a l'autopsie qu'il ne faut pas oublier, puisqu'en fait, donc, on transporte le corps dans l'antichambre de l'œil de bœuf, on le place sur une grande table d'autopsie avec une nappe. Et puis ensuite, eh bien, il y a l'embaumement d'abord. Effectivement, on enlève les entrailles, on remplace par des herbes aromatiques. Et puis ensuite, c'est la tripartition, selon la tradition. En fait, le roi, il a trois tombeaux pour honorer les différents lieux de culte. Donc d'abord, le corps, il est placé donc à l'abbaye de Saint-Denis dans un cercueil de plomb, puis de bois. Et donc là, c'est le lieu du corps. Ensuite, le cœur est placé à l'église Saint-Louis des Jésuites, donc à Paris, donc dans une boîte de plomb, puis une boîte en or. Et puis, les entrailles sont déposées à Notre-Dame, donc pareil, dans une petite boîte en plomb, puis en bois, donc dans le sol de Notre-Dame.
Virginie ?
Après la mort du roi, à Versailles, il est d'usage de porter le deuil. Alors, à quoi ressemblent les vêtements de deuil de l'époque et pendant combien de temps on est censé le porter ?
D'abord, le roi de France, il ne porte le deuil que de ses descendants. Jamais de ses descendants. Et donc, le petit Louis XV va porter le deuil de son aïeul Louis XIV. Et donc, un an est déclaré de deuil, qui est une durée assez maximale. Et concernant les habits, eh bien, le roi porte le deuil en violet. C'est la couleur qui lui est exclusivement réservée. Alors, c'est un violet cramoisi, selon les sources, qui tire plus vers le rouge que vers le bleu. Et puis, cette grande période de deuil, elle est divisée en deux. Donc d'abord le grand deuil où le roi est en violet, ensuite le petit deuil où le roi est en noir, et puis il faut le rappeler qu'en période de deuil, eh bien, on supprime les spectacles, le jeu, et donc cette cour...
On s'ennuie ferme le soir
voilà,
à Versailles.
Voilà, c'est la grande cour festive de Versailles, eh bien, plonge complètement dans la désolation.
Les funérailles de Louis XIV ont lieu en l'abbaye de Saint-Denis, le 23 octobre 1715. J'imagine qu'elles sont à l'image de son règne grandiose.
Il faut imaginer la basilique de Saint-Denis entièrement tendue de velours noir brodé d'argent. On n'utilise jamais l'or pour les funérailles. Hein. C'est toujours l'or blanc ou l'argent. avec au centre un catafalque absolument vertigineux qui semble se poursuivre jusqu'aux voûtes où est placé le cercueil du roi. Ensuite, on prononce l'oraison funèbre par l'évêque de Castres. Et ensuite, c'est l'autre cérémonie dans la descente du caveau. Et puis, ensuite, on termine par des prières pour le repos de l'âme de Louis XIV.
Un dernier mot. Après la fin de la monarchie, la France connaît des présidents, même des grands hommes. On leur consacre des cérémonies somptueuses dans la cour des Invalides, même. Est-ce qu'aujourd'hui, on emprunte au règne des rois Bourbons eh bien quelques-uns des rituels monarchiques pour honorer les femmes et les hommes célèbres?
Bah oui, je crois qu'on a tous pu le vivre récemment et ça nous a tous passionnés, ces très grandes funérailles que nous avons vécues avec la reine d'Angleterre. Et d'ailleurs, lorsque la reine d'Angleterre est morte récemment, eh bien, les journaux ne titraient pas « La reine d'Angleterre est morte », c'était « La reine est morte », évidemment, pour ces très grands souverains.
Mais merci beaucoup Hélène Delalex de nous avoir raconté les funérailles grandioses de Louis XIV, le plus célèbre de nos rois de France. Le château de Versailles présente actuellement l'exposition chef-d'œuvre de la chambre du roi. Il faut courir visiter les expositions de Versailles qui sont toujours exceptionnelles. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
Europe 1, historiquement vôtre.
Stéphane Bern.
Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, avec Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez et Virginie Giraud, on réunit des personnages qui ont mis en scène leur propre mort. Après Sarah Bernard et Louis XIV, vous nous racontez, Jean-Luc, le réalisateur David Cronenberg.
Je vais à présent vous parler du réalisateur canadien David Cronenberg, qui a lui aussi, comme Sarah Bernard et Louis XIV, mis en scène sa propre mort. Lui, c'était en 2021, dans son court-métrage intitulé The Death of David Cronenberg, extrait. Oui, en fait, le film est muet, personne ne parle. Mais si vous avez bien tendu l'oreille, vous avez peut-être perçu un léger bruit de pas.
Oui.
Vous l'avez entendu? Et ben, c'est David Cronenberg en robe de chambre qui approche de son lit et il découvre son propre cadavre allongé dedans. Et là, il dit...
Oh, quelqu'un s'est couché sur mon lit.
Non, ça, c'est Papa Ours. David Cronenberg, lui, il a l'air un peu étonné, mais il dit rien. Faut dire que l'autre, le mort, c'est aussi son lit. Hein. Alors, il vient l'embrasser tendrement sur le front. Puis il s'allonge à côté de lui.
Jour contre jour.
Fin. The End. Oui, c'est un très 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 court métrage. 56 secondes.
Ah oui, c'est très court.
Ah, vous pouvez le regarder. Vous n'allez pas vous ennuyer. Ça passe très très vite. Alors que veut nous dire David Cronenberg dans son mini-film? Eh bien qu'il accueille la réalité de sa propre mort, sans peur, et même en l'aimant. Car en fait, une part de lui est déjà morte au décès de sa femme 4 ans plus tôt. Ce corps gisant dans son lit le représente donc lui, mais aussi celui de son épouse disparue. Oui, je sais, c'est pas marrant tout ce que je dis. Hein. Pardon, mea culpa, je plombe l'ambiance. Mais j'ai un remède à ça, écoutez plutôt.
Mais qu'est-ce que c'est?
C'est la vidéo la plus vue de l'histoire de YouTube.
Exactement.
Baby Shark.
Et puis moi, je suis désolé, j'aime tellement les chansons à texte. Oui, ça n'a absolument aucun rapport avec David Cronenberg, hein, mais vous avez vu tout de suite, ça a mis une ambiance légère et joyeuse. David s'est ravivé d'un seul coup.
Complètement.
Virginie est restée un petit peu circonspecte.
Oui, c'est ça, c'est le bon mot.
Parce que donc, j'avais la ref.
Exactement. Je peux donc me remettre à vous parler de la mort. Non, de la mort surtout. Ah. Oui, parce que du coup, j'ai réfléchi à comment je pourrais moi aussi me mettre en scène.
Ah bah oui.
Alors non, moi pas du tout. Parce que du coup, tu touches pas ton cachet, ça n'a aucun intérêt. Non, moi j'aimerais mourir dans mon lit, entouré de tous mes proches. Le truc classique, quoi. Par contre, je ferai un rappel. Je ferai mine de rendre mon dernier souffle, puis hop, je rouvrirai les yeux pour 10 minutes de rab avant de mourir pour de vrai.
Attention, il revient.
C'est ça. Ce serait marrant aussi d'entendre les premiers trucs que disaient tes proches juste après ta mort.
Tu genre, ah enfin
ah, bon, ouais, c'est ça. Genre, pas trop tôt, j'ai cru que j'allais rater le dernier bus. Ou bien l'enfoiré, il me devait encore 50 balles. Ou encore, je peux récupérer son iPhone 14. On est d'accord qu'il n'y en a plus besoin, là. Allô? Allô, Jean-Luc Lemoyne? Non, désolé, il vient juste de mourir. C'était pourquoi? Une interview de lui? Ah bah moi je peux la faire, je connaissais bien, oui. C'était mon meilleur ami. C'est payé combien? Ou alors je me ferai incinérer, mais j'avalerai des pétards juste avant de mourir, pour mettre un peu d'anime au moment de la crémation. Ça serait pas joyeux, ça.
Mais c'est une super idée, j'aime bien, moi.
On est d'accord.
Mais oui.
On est d'accord. Il faut juste digérer les pétards.
Oui.
Bon, mais avec tout
et
ça.
Et qui s'enflamme, parce qu'à mon avis, la poudre.
C'est possible, ah, c'est possible. Mais laissez-moi rêver deux
secondes. Oui, mais c'est pas logique.
Bon, mais avec tout ça, j'en oublierai presque de parler de David Cronenberg. Oui, parce qu'il a eu beau mettre en scène sa mort, il l'est pas encore, David. Il vient même de fêter ses 80 ans il y a deux semaines.
Nous te souhaitons un joyeux anniversaire.
David Cronenberg est en effet né le 15 mars 1943 à Toronto, au Canada. Jeune adulte, il étudie les sciences puis la littérature, mais il se passionne rapidement pour le cinéma, surtout expérimental. Et entre 1966 et 1970, il réalise avec très peu de budget, genre encore moins que celui de notre émission, deux courts-métrages, puis deux moyens-métrages underground qui annoncent les thèmes de sa future œuvre. Alors justement, quels sont les thèmes de prédilection de David Cronenberg qu'on retrouve dans ses longs-métrages ? Bah, que des trucs sympas. La maladie, les parasites, les névroses, les pulsions morbides, la souffrance, les dérives de la technologie, les mutilations et la dégénérescence physique, tout ça. Enfin, qui traite toujours sous forme de comédie.
T'as pas perdu ta bonne humeur, t'as pas perdu ta bonne humeur.
Ouais, non, évidemment. Cronenberg traite ses thèmes via l'horreur, le fantastique, la science-fiction ou les trois mélangés. Pitch de rage, son second long métrage sorti en 1977. Après un accident de moto qui l'a totalement défiguré, une jeune femme est soignée par un chirurgien esthétique qui va l'utiliser comme cobaye. Son métabolisme change et un nouvel orifice apparaît sous son aisselle. Alors, quand tu sais que c'est Marilyn Chambers, l'actrice X du film culte Derrière la porte verte, qui interprète la jeune femme, tu te dis que le film de Cronenberg peut être un petit peu coquin.
Mais c'est le vrai pitch ?
Oui, c'est le vrai pitch. Eh ben non, en fait, c'est moins fun que ça, parce que c'est un orifice par lequel elle doit désormais se nourrir de sang.
Ah
ouais, moins cool, moins cool. Non, parce que tu sais qu'il y en a plein dans les films de David Cronenberg, mais c'est souvent du sexe un peu chelou, avec des jumeaux gynécologues, comme dans le film Faux-semblant, dans des voitures accidentées, comme dans Crash, ou alors du sexe chirurgical et mutant, comme dans Les Crimes du Futur, son dernier film sorti en 2022.
La chirurgie, c'est le nouveau sexe.
Ouais, faut voir, hein, faut voir. Quoi qu'il en soit, après ces films Chromosome 3, avec des enfants pustulés tueurs, Scanner, avec des mutants télépathes, Vidéodrome, avec un insecte machine à écrire qui parle avec un anus géant, puis Dead Zone, adapté du best-seller de Stephen King, David Cronenberg, devenu maître du body horror, connaît enfin un succès international en 1986 grâce à son film La Mouche.
La mouche qui pète.
Alors non, c'est La Mouche tout court. Hein. Et après ce film, il s'éloigne de l'horreur et de l'épouvante pour s'attaquer davantage à la psychologie humaine dans des films comme A History of Violence, Les Promesses de l'Ombre ou A Dangerous Method. En résumé, comme il le dit si bien, c'est ma folie qui fait ma sagesse. Et David Cronenberg, un jour, les emportera toutes les deux dans sa tombe. Mais ce qu'il n'emportera pas, ce sont ses films. Et les 18 calculs rénaux qu'on lui a extraits en 2022 et dont il a mis en vente la photo en NFT. Encore une abstraction. 15 000 $ quand même.
Oui.
Mais qui achète ça ?
Bah, Stéphane. Attirant gardé, c'est,
ah non, pas
c'est très très bien décoré. À demain pour un autre portrait. Et j'espère que demain, il y aura un peu moins de mouches dans le studio parce que là, c'est un peu flippant.
Merci Jean-Luc. Étrange personnage. Hein.
Ah, très étrange, David Cronenberg. Avec un univers à lui tout seul.
Ouais.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages qui ont mis en scène leur propre mort pour retrouver deux chroniqueurs bien vivants qui aiment se mettre en scène aussi et même y monter, en tout cas pour le premier. David Cassel-Lopez, vous nous racontez les origines de la grève.
Exactement.
Mais avant ça, comme chaque jour, mes éduqués à l'époque, aujourd'hui on parle société avec vous, Virginie Giraud, notre historienne des mœurs. Ça s'est passé dans le passé, on remonte dans les années 50 aux États-Unis, quand le chef du FBI, J. Edgar Hoover, fichait les homosexuels.
Est-ce que vous saviez qu'aux États-Unis, les relations homosexuelles étaient criminalisées jusqu'en 1962 ? Pour comparaison, en France, l'homosexualité est dépénalisée en 1791, c'est-à-dire pendant la Révolution française. La loi abrogée en 1982 interdisait seulement les pratiques homosexuelles pour les moins de 21 ans. Mais je ferme là ma parenthèse française, puisque là, ce qui nous intéresse, ce sont les États-Unis. Donc, J. Edgar Hoover devient directeur du FBI en 1924 et il le restera jusqu'à sa mort en 1972. Pendant 48 ans, Hoover savait tout
sur tout le monde en Amérique.
Il a donc traversé la période du McCarthyisme dans les années 50.
Oui, c'est la grande peur rouge des États-Unis. Le FBI se livre alors à une chasse aux communistes. Et c'est une période qu'on appelle aussi la chasse aux sorcières. Et à la tête de ces chasseurs, il y a Hoover. Donc, comme je vous le disais, c'est quelqu'un de pas sympathique, Hoover. Il a mis son pays sur écoute de manière illégale et il faisait des dossiers secrets sur les hommes politiques et les stars du showbiz. Il avait les moyens de faire tomber absolument tout le monde. Et il avait notamment un dossier consacré aux déviances sexuelles. C'est comme ça qu'il appelait les vices des uns et des autres, dans une Amérique encore très pudibonde, et il fichait notamment tous les homosexuels du pays.
Mais c'était quoi le projet? Parce qu'il n'allait quand même pas traîner tous les homosexuels au tribunal.
Et non, mais il considérait que les homosexuels étaient tous des traîtres potentiels parce que les agents russes pouvaient les faire chanter en menaçant de révéler leurs préférences, qui auraient été sanctionnées par la loi. Et donc, à l'époque, faut pas oublier que c'était perçu comme un problème psychiatrique, l'homosexualité. Et donc Hoover a fortement contribué à la stigmatisation des homosexuels. Mais vous imaginez bien que le bonhomme avait lui aussi ses petits secrets.
Ah, on attend la révélation de notre historienne des mœurs.
Et oui, j'ai fait comme Hoover, j'ai fouiné dans sa vie privée. Eh bien, il s'avère qu'à part une vague liaison de jeunesse éphémère avec une actrice, on n'a jamais vu Hoover avec une femme. En revanche, il est très proche de son directeur adjoint depuis 1930. Il ne quitte jamais Clyde Tolson. Ils vont au travail ensemble en voiture, le midi ils déjeunent ensemble, et puis ils partent en vacances ensemble, tout le temps. Ils ont des dizaines de photos qui attestent de leur moment d'intimité. Bon alors, rien de fou, hein. On voit deux camarades très proches sur les photos, rien de répréhensible à l'époque aux États-Unis, et ça aurait pu s'arrêter là. Sauf que Hoover et Tolson fréquentent le Stork Club. Le Stork Club, c'est une boîte ultra branchée de Manhattan dans les années 50 et on y croise tout le gratin. Grace Kelly, Hemingway, Kennedy. Alors, on n'y croise pas Josephine Baker parce qu'une fois, elle a voulu venir et on n'a pas voulu la servir parce qu'elle était noire. Vous voyez, c'est le genre d'endroit où le racisme est totalement décomplexé. Donc, un endroit que moi, j'aimerais pas fréquenter personnellement. Et donc, dans ce club, on peut voir Hoover et Tolson qui semblent s'effleurer la main sur certains clichés. Bon, rien de fou néanmoins.
On s'attendait à une révélation plus énorme.
Oui.
C'est parce que je vous ai donné des habitudes, mais ça arrive, c'est Jean-Luc, ça arrive. Donc sans surprise, le Stork Club est tenu par la mafia. Et Hoover, comme vous le savez, c'est un accro à l'ordre. Il a vidé les États-Unis de tous ses gangsters dans les années 30, mais étonnamment, il ne touche pas à la mafia dans les années 50. Il va même jusqu'à dire qu'il n'y a pas vraiment de mafia aux États-Unis. Pourquoi cette complaisance, selon vous? Eh bien, parce qu'il se murmure que la mafia posséderait des photos compromettantes de Hoover au Stork Club avec Tolson. Certains disent même que la mafia serait en possession de clichés de Hoover travestis en femme pendant des soirées très privées avec des jeunes garçons. Alors, si toutes les photos dont je vous ai parlé jusque-là existent vraiment, on les trouve facilement sur Internet, ben, ces photos-là, hein, celles de ces soirées privées, de ces parties fines, eh bien, personne ne les a jamais vues aux États-Unis. On ne sait pas si elles existent vraiment ou si elles ont été inventées pour nuire à la réputation de Hoover. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup d'historiens qui pensent aujourd'hui que Hoover, cet homme qui a été impitoyable avec les homosexuels, l'était lui-même. Et finalement, c'est plutôt triste.
Mais vous l'avez dit, Virginie Hoover, c'était pas quelqu'un de bien. Vous nous le prouvez dans votre podcast « Au cœur de l'histoire ».
Voilà, moi je ne vous mets pas sur écoute, mais vous, vous pouvez m'écouter sur votre plateforme de podcast préférée. Je vous raconterai en détail l'incroyable parcours professionnel de Hoover, l'homme le mieux renseigné des États-Unis.
Merci beaucoup Virginie Mézaïou, quelle époque. Bon, heureusement qu'on en est sorti de cette époque.
Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
Les origines.
Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoine et Virginie Giraud, et surtout avec vous, David Cassé-Lopez. Vous ne faites pas grève aujourd'hui, mais vous préférez nous en raconter les origines.
Oui. En octobre 1998, j'étais en première au lycée Condorcet, dans le 9e arrondissement à Paris. C'était un lycée public, mais quand même plein de fils et de filles d'intellectuels de gauche, tous plus ou moins bons élèves. Il y avait de très bons profs, le bâtiment il était super beau, il y avait un gymnase, des salles de chimie super bien équipées, mais Ce mois-là, les élèves du lycée Condorcet ont entendu parler du mouvement lycéen contre la réforme du ministre de l'Éducation de l'époque, qui s'appelait Claude Allègre. J'ai à peu près totalement oublié en quoi consistait cette réforme. Je sais juste qu'il était question des moyens donnés au lycée et qu'il n'y en avait pas assez, tout ça. Et autour de moi, au lycée Condorcet, il y a des gens qui ont commencé à faire grève. C'est-à-dire à ne plus aller en cours pour protester contre le manque de moyens, y compris le manque de moyens au lycée Condorcet. En prenant par exemple le fait que les toilettes du lycée, elles n'étaient pas en très bon état. Oh, les pauvres du lycée Condorcet. Et puis, un jour, sous l'impulsion d'une fille de seconde charismatique qui s'appelait Magali, on est tous sortis du lycée et on s'est assis en plein milieu de la chaussée devant la gare Saint-Lazare à Paris pour empêcher les voitures de circuler. Et évidemment, ça a marché, les voitures ne pouvaient plus circuler. Et je vous jure que 25 ans plus tard, à l'heure où je vous parle, je tremble encore de honte d'avoir fait ça. Non mais c'est quoi le rapport entre le fait d'empêcher les gens d'aller au travail devant la gare Saint-Lazare et la réforme Allègre ? Aucun ! Et bien sûr, si on faisait ça, c'était pas par altruisme, c'était par égoïsme, c'était qu'on voulait emmerder le monde, se gargariser avec notre minuscule pouvoir de nuire pour avoir l'impression d'exister, à défaut d'avoir des compétences en quoi que ce soit, parce que quand on a 16 ans, on sait rien faire, c'est comme ça. Et pourtant, des grèves belles et justes, il y en a. Et pour tenter de racheter mon comportement de petit con en 1998, je vais maintenant vous raconter l'origine des grèves. La plus ancienne grève dont on ait retrouvé la trace, elle date du 12e siècle avant Jésus-Christ en Égypte, à l'époque de Ramsès II. Les ouvriers qui travaillaient à la construction des tombeaux des pharaons à Deir el-Médina, ils ont fait grève pour obtenir des meilleurs salaires et aussi le fait que ces salaires leur soient payés de façon plus régulière. Ils sont même assis devant un temple, un petit peu comme moi, 3200 ans plus tard, sauf que c'était pour de bonnes raisons, et ils ont obtenu gain de cause. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que jusqu'à très peu de temps, faire la grève, c'était horrible pour ceux qui la faisaient. La grève des drapiers à Rouen en 1280, la grève des ouvriers de la cathédrale de Bordeaux en 1511, les imprimeurs à Lyon en 1539, toutes ces grèves, elles ont été réprimées dans le sang. Alors vous allez me dire, oui mais après il y a eu la Révolution française. La Révolution française, elle a dû donner le droit de grève aux gens quand même. Eh ben pas du tout. C'était le contraire, parce que l'idéal démocratique de la Révolution française, c'était, entre autres choses, de construire un système où il y avait l'intérêt des individus d'un côté, l'intérêt général de l'autre, et rien entre les deux. Et en particulier, les révolutionnaires, ils se méfiaient des corporations, qui étaient des organisations professionnelles qui dataient du Moyen-Âge et qui favorisaient l'entraide au sein d'un même métier, mais qui avaient aussi des pouvoirs très étendues, genre elles faisaient une partie de la loi sur leur profession en contrôlant l'accès à tel ou tel métier, la formation, la hiérarchie professionnelle. Et tout ça, c'était pas 100% compatible avec l'idée d'égalité ni avec l'idée de liberté d'entreprendre. Donc, la Révolution, elle a interdit les corporations, mais elle a aussi interdit le droit de grève. Parce que pour les révolutionnaires, la grève, c'était la rupture d'un contrat établi librement entre l'employeur et l'employé. Le seul droit que le travailleur avait, c'était de démissionner. Mais évidemment, la conséquence de cette loi, ça a été d'isoler complètement les travailleurs face aux employeurs. Et tout le 19e siècle français, ça a été encore une longue série de grèves illégales réprimé dans le sang. C'est qu'en 1864 que la grève a été dépénalisée en France, mais c'était encore considéré comme une faute professionnelle. Et c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale qu'elle a vraiment été légalisée. Alors depuis, la France en a quand même bien profité. Parce que c'est pas une légende hein, quand on dit que les Français font particulièrement beaucoup la grève. La France, elle est toujours dans le peloton de tête des pays de l'OCDE où on fait le plus la grève. Ce qui pousse peut-être quelques adolescents privilégiés à la faire sans raison. Voilà.
Merci. Mais vous ne nous avez pas raconté pourquoi la grève s'appelle la grève.
Ça s'appelle la grève parce que à cause de la place,
la
de,
place
grève,
de grève.
Une grève au départ, c'est une sorte de...
La
de...
grève sur les bords de Seine.
Oui, voilà, c'est, en fait, c'est une espèce de, d'étendue un peu plate sur les bords d'une, d'une rivière. Donc il y avait une place de grève à Paris où au départ on allait ouais. pour trouver du travail.
Ah,
mais
bah
c'est
voilà,
aussi là
vous
qu'on...
avez raison de le dire.
C'est finalement là qu'on se réunissait pour chercher du boulot d'abord. Pour chercher du boulot d'abord, mais ensuite pour protester quand il y avait des problèmes. Et c'est de là que vient l'idée, faire la grève. À cause de ça, quoi.
Exactement. Merci, c'était très complet comme ça. Merci beaucoup, David. On retrouve Les Origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr. Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Voilà, Historiquement Vôtre, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec de nouveaux personnages, de sauvages apaches. Le gang des Apaches a semé la terreur dans Paris au début des années 1900, à l'occasion de la sortie du film Apache, dont on va parler avec son réalisateur et la comédienne Alice Izaz, puis le plus célèbre des Apaches, Geronimo. Et vous, Jean-Luc, vous nous raconterez un artiste devenu Apache dans une série.
Oui, le rappeur Attic, qui campe un autre rappeur Apache, donc, c'est son nom, dans la série Validée, la série que tout l'univers du rap, et pas seulement d'ailleurs, a validé. Vous verrez, je vous raconte tout ça demain.
Oh là là, il faudrait que je décrypte tout ça, moi. On sera là, ça tombe bien, hein, Jean-Luc. À demain, les amis, à demain, chers auditeurs.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.